Grand Large, avec Rémi Pelletier, sur Radio Classique.
Avec le CIC, partenaire des grandes courses au large.
Bonjour et bienvenue pour Grand Large sur Radio Classique. Ce week-end, j'ai la chance de retrouver Michel Chandaigne. C'est probablement le plus grand expert des secrets de Fernand de Magellan. Nous sommes dans le détroit de Magellan, à côté de l'île Carlos III, dans la baie des Sardines, où la vie de ce navigateur portugais a probablement basculé.
Magellan savait qu'il était en train de découvrir le passage, mais il y a un bateau qui reste en arrière, qui ne revient pas. Ils sont obligés de s'arrêter, ils s'arrêtent dans cette baie des Sardines qui est bien abritée. Au bout de 4 jours, il ne revient toujours pas. Il envoie un des 4 bateaux, la Victoria, à sa recherche. Il passe 8 jours en tout le détroit, voir est-ce qu'il a naufragé, est-ce qu'il lui est arrivé une avarie. Il ne le voit pas, il revient, au bout de 8 jours, il dit bon, il a dû déserter. Et là, il ne reste plus que 3 bateaux. Est-ce qu'ils vont continuer? Celui qui a déserté est parti avec la moitié des vivres, 57 hommes. C'est très risqué. Mais Magellan n'a pas le choix. Il a maté une mutinerie, puni les responsables espagnols. Il faut qu'il réussisse. Il est obligé de réussir. Donc il arrive à entraîner ses hommes. Mais le fait incroyable, c'est que cette désertion, qui aurait dû provoquer l'échec total par manque d'hommes, de vivres, de l'expédition de Magellan, va la sauver. Pourquoi? Parce que pendant les 14 jours où ils vont rester dans la baie des Sardines, qui est abritée, il y a de l'eau fraîche, ils se reposent, ils réparent les bateaux, mais il y a surtout de gigantesques étendues de céleri sauvage. Et eux, ils manquent de nourriture fraîche depuis 6 mois, il n'y a plus beaucoup de vivres. Donc, instinctivement, ils en mangent et ils en font des pickles, puisqu'ils apportent beaucoup de vinaigre pour conserver la nourriture. Et ça, ça va leur servir pour la route. Et ce qu'ils savent pas, c'est que les céleri, c'est bourré de vitamine C. Et ça, ça va les protéger pendant la traversée de 100 jours qu'ils vont faire sans escale jusqu'aux Mariannes.
Alors Michel Chandaigne, on va être obligé de mettre fin à une légende. Magellan n'a jamais réalisé le premier tour du monde par voie maritime. Il n'en a jamais été question.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, bon, il ne l'a pas fait parce qu'il est mort en route, mais il avait l'ordre de ne pas le faire. Son mission, c'était de trouver un passage au sud de l'Amérique, se rendre aux Moluques, qui se trouvaient, semblait-il, dans la partie espagnole du monde. En deux mots, le monde était divisé en deux depuis Tordesillas. Il y avait 180 degrés pour les Espagnols, 180 degrés pour les Portugais. Tout ça avec une ligne qui passait par l'Amazonie, en gros. Et donc, sa mission, c'était de traverser le Pacifique. Bon, il espérait trouver des îles, de l'approvisionnement. Il n'avait pas de chance. Il aurait pu passer à Tahiti, aux Marquises. Non, il passe au milieu, il ne voit rien. Il ne rencontre aucune île. Il arrive exsangue, affamé, aux Mariannes. Et là, bon, il va se rendre compte que les Moluques sont dans la partie portugaise. Et là, ça va se gâter pour lui.
Alors, le marin portugais, donc Magellan, sera donc le premier Européen à découvrir la Patagonie australe où nous sommes depuis quelques jours avec Exploris One, le navire de la compagnie Exploris. Il était portugais, mais travaillait donc pour le roi d'Espagne, vous l'avez dit. Et comme Christophe Colomb, il a, avec ses voyages en mer, influencé le monde.
Oui. Colomb, oui, parce qu'il a découvert de nouvelles terres. Il a toujours cru jusqu'à sa mort que c'était l'Asie. Son voyage a déclenché vraiment un changement total de la géographie, de la géopolitique et du devenir du monde. Magellan, moins, il a fait un voyage extraordinaire, le plus beau des voyages, avec une narration d'un Italien, Pigafetta, qui a des plus beaux textes de voyage de cette époque. Oui, il a découvert le détroit de Magellan, découverte majeure. Il a fait une traversée extraordinaire. Mais finalement, sa découverte principale, qui est celle du détroit de Magellan, va servir à rien. Et le détroit de Magellan va être plus ou moins abandonné pendant des dizaines d'années, voire des siècles.
Magellan, a priori, est complètement vénéré parmi tous les explorateurs. Et vous, vous avez été extrêmement ému, à titre personnel, de vous retrouver à cet endroit.
Ah oui, parce que j'ai analysé tous les témoignages. Nos éditions en 2007 ont réuni tous les témoignages directs sur le voyage de Magellan. On connaissait celui de Pigafetta, que nous avons réédité, mais nous lui avons adjoint 23 autres témoignages qui racontent ces événements. Donc j'ai travaillé sur ces textes et la baie des Sardines, j'ai vu que c'était un lieu clé du voyage. Donc je travaille depuis presque 20 ans sur le sujet et c'est le lieu historique où Magellan a été. Les paysages n'ont pas changé et on y trouve les mêmes forêts, les mêmes cailloux. Rien n'a bougé. Il y a juste une croix qu'on a mise à l'endroit où a eu lieu la première messe en 1520.
Alors Michel Chandaigne, pour nos auditeurs, vous avez au cœur de Paris une librairie spécialisée dans tout ce qui est explorateur, notamment portugais, mais pas que Magellan. Vous avez une passion pour ce monde des explorateurs, pourquoi ?
Alors, c'est en revenant du Portugal, où j'étais coopérant militaire 2 ans, j'étais professeur de biologie, j'ai adoré ça, en 82, hein. En découvrant la langue, en découvrant la littérature, l'histoire, en traduisant Pessoa, j'ai découvert l'histoire du Portugal. Une histoire très intéressante, c'est le plus vieux pays d'Europe dans ses frontières. C'est une histoire extrêmement complexe, et surtout, au 15e, 16e, 17e siècle, ils sont allés dans le monde entier, ont rapporté des cartes du monde entier, des produits du monde entier. Ils ont produit un désordre mondial de l'agriculture en faisant changer de continent énormément de plantes. Hein. C'est eux qui apportent même le piment en Asie, qui apportent le manioc en Afrique, qui apportent la patate douce en Chine. Bon, tout ça est absolument étonnant. Et donc, ce n'est pas la culture d'un petit pays qui m'intéressait, mais la culture du monde au 15e, 16e, 17e siècle. S'intéresser au Portugal, à la culture portugaise, c'est s'intéresser au monde entier. Du Japon, où ils ont été un siècle, à Terre-Neuve, au Brésil et à toute l'Afrique. Extraordinaire.
Et Michel Chandaigne, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations et rentrer un peu dans ce monde des explorateurs, où est votre librairie ?
Il y a les éditions Chandaigne, avec plus de 200 titres, mais qui s'appuient sur la librairie, qui est située place de l'Estrapade, près du Panthéon, rue des Fossés Saint-Jacques, librairie portugaise et brésilienne, qui traite de toute la culture lusophone dans le monde. C'est une librairie qui est unique en France, il n'y en a pas beaucoup en Europe, et qui est ouverte toute l'année. On a un site très fréquenté, plus de 15 ans, où des gens du monde entier viennent souvent de très très loin pour découvrir la culture portugaise.
Un grand merci, je recevais donc Michel Chandaigne, auteur, éditeur, libraire, conférencier, grand expert de Fernand de Magellan. On se retrouve très vite pour Grand Large sur Radio Classique. Au revoir.
C'était Grand Large avec Rémi Pelletier sur Radio Classique.
Avec le CIC, partenaire des grandes courses au large.